espoir. Signature dimanche dernier à Addis Abeba en Éthiopie de l'accord cadre destiné à ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Démission hier au Vatican du pape Benoît XVI. Tels sont les thèmes que vous propose Tribune de la Presse de ce soir. Nous avons dans cette émission Benoît Kambéré, il est rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région de Dalak, un hebdomadaire qui part ici à Kinshasa. Bonsoir Benoît Kambéré.
Bonsoir Guy Maté Tsongo, bonsoir à tous les nombreux auditeurs de Radio Kapi, particulièrement ceux de Bunia, Beni, Butembo, Goma et Bukavu, d'où je viens.
Ambroise Mamba, journaliste à Congo Web, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Ambroise Mamba.
Bonsoir Guy Maté.
Et Odan Joseph Bongambo, directeur des informations à la radio-télévision Sara, émettant depuis Mbandaka dans la province de l'Équateur. Bonsoir Odan Joseph Bongambo.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Sara.
Signature de l'accord cadre et démission du pape Benoît XVI, c'est parmi les informations qui ont défrayé la chronique cette semaine. Écoutons cette revue de presse que nous propose Alain Hirung pour savoir comment la presse a analysé ces différentes informations.
Bonsoir. La signature dimanche dernier de l'accord cadre à Addis Abeba défraie la chronique et chacun y va de son commentaire dans la presse quinoise. Ainsi, Forum des As ouvre le bal en titrant « Devant Ban Ki-moon, Joseph Kabila et Paul Kagame s'engagent à respecter l'accord cadre d'Addis Abeba ». Mais pour le quotidien du groupe L'Avenir, l'accord cadre signé, le plus dur est à venir. Le confrère précise que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a signé en tant que garant de la bonne application du texte. Toutefois, selon le tabloïd, la simple la signature de l'accord cadre ne suffit pas pour instaurer la paix dans l'est de la RDC. De son côté, la tempête des tropiques trouve que cet accord cadre est conclu sur fond d'espoir, mais seulement 6 chefs d'État sur 11 attendus ont fait le déplacement d'Addis Abeba, explique la consoeur. Parmi les grands absents figure l'Ougandais Yoweri Museveni, qui a préféré se faire représenter alors que son pays est cité parmi ceux qui déstabilisent la RDC. Mais le potentiel signale que l'accord cadre de paix fait craindre à Mahagi, en province orientale, l'émiettement de la RDC sous l'égide de l'ONU. Par ailleurs, le phare estime pour sa part qu'à Addis Abeba, la RDC aurait été piégée. Et pour cause, selon le confrère, elle a l'obligation de se démocratiser, de réconcilier ses fils et filles, de réformer son armée et sa police, etc. Alors que rien de tel n'est demandé au Rwanda. Divorce consommé au sein du M23, Makenga Chasruniga. C'est la une du journal La Prospérité. C'était prévisible et ce n'était plus qu'une question d'heure. Et finalement, la décision a été prise par Sultani Makenga, qui a destitué le pasteur Jean-Marie Runiga de la tête du M23. C'est que confirme le potentiel qui signe, Makenga remplace Runiga accusé d'appuyer des activités illégitimes de Ntaganda. En outre, Forum des As rapporte qu'il est reproché à Runiga, entre autres, la malversation financière, les divisions des membres de la rébellion, la haine ethnique, l'escroquerie, le manque de professionnalisme et manque d'éthique politique. Mais à propos des divisions au sein du M23, L'Avenir trouve Kagame réédite l'exploit de 98. C'est une stratégie de diversion savamment orchestrée par Paul Kagame, le président rwandais. C'est lui l'acteur stratégique de cette nouvelle aventure, martèle le confrère. Terminons cette revue de presse par la démission du pape Benoît XVI. Le potentiel indique Vatican, Benoît XVI se soumet au prochain pape. Et le confrère d'enchaîner que jeudi 28 février 2013 restera une journée historique pour le Vatican. Le pape Benoît XVI redevient Joseph Ratzinger.
Merci Alain Hirung. Un petit commentaire Benoît Kambéré. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi le maintien en détention de l'éditeur du quotidien La Colombe, M. Joachim Diana, en dépit d'une demande de liberté provisoire formulée par la Défense.
Ben c'est dommage, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais dire si on doit respecter les actes de justice, n'est-ce pas, en dehors de l'actualité qui a été bien commentée par notre confrère Alain Rung. Je voudrais saluer, j'espère qu'il est en train de nous suivre, notre confrère Diana. Nous sommes de cœur avec lui, qu'il tienne bon, voilà.
Et l'autre actualité, c'est l'annonce par le gouvernement congolais qui a annoncé la création d'un fonds estimé à 40 milliards de francs congolais pour soutenir le secteur de l'éducation en République démocratique du Congo.
40 milliards de francs congolais, j'aurais vraiment voulu qu'ils mettent ça en dollars pour soutenir le secteur de l'éducation, qui est un secteur social très important. Je ne sais pas si 40 milliards de francs congolais suffiront, mais c'est déjà ça. Vivement que cet argent sorte et vivement que ce montant soit revu à la hausse. Peut-être que ça pourra soulager les enseignants qui broient du noir. Je sais de quoi je parle, je suis parent d'élèves.
Ambroise Mamba, journaliste à Congo Web, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Un mot par rapport au maintien en détention du journaliste Joachim Diana.
C'est vraiment déplorable pour un journaliste qui n'a fait que dire la vérité, qui a prévenu la société du danger, qui a prévenu également les gouvernants du danger, mais qui se voit détenu en prison. C'est vraiment déplorable. C'est là que d'ailleurs on va demander, moi personnellement je demande qu'il soit dépénalisé les délits de presse. À ce moment-là, ça va quand même nous couvrir, nous sécuriser, nous les journalistes, pour le travail qui est vraiment noble que nous faisons pour notre société.
Un mot par rapport à ces fonds créés par le gouvernement congolais, estimé à 40 milliards de francs congolais pour soutenir les secteurs de l'éducation.
Bon, quand on parle en termes de milliards, on estime que c'est beaucoup d'argent, mais en francs congolais, quand on cherche à faire peut-être la monnaie en dollars, on va peut-être se rendre compte que c'est un petit montant par rapport à l'immensité de notre pays, par rapport aux besoins qui se présentent dans les secteurs de l'éducation, mais c'est quand même un pas, des bonnes intentions également, mais le plus important, ce sont les résultats qui vont découler peut-être de l'utilisation de ces fonds pour qu'effectivement il y ait un enseignement de qualité au niveau de notre pays.
Odin Joseph Bogambo, vous êtes directeur des informations à la radio-télévision Sahara émettant depuis Mbandaka dans la province de l'Équateur. Un mot par rapport au maintien en détention des journalistes Joachim Diana.
Je crois que c'est une honte pour le gouvernement congolais au regard de l'évolution de la situation du pays, c'est-à-dire un pays qui aspire à la démocratie. C'est quand même une honte qu'on puisse maintenir un journaliste pour avoir fait son travail. Et c'est là, en dépit des différents cris de détresse lancés ça et là, tant par les confrères journalistes que par les organisations qui défendent les droits des journalistes. Donc les péchés commis par Joachim Diana, je crois il n'est pas plus grand que les péchés commis par les enfants d'Israël, et que si toutes les conditions de sa remise en liberté, d'abord, c'est une personnalité dans la ville de Kinshasa, qui ne peut pas se soustraire de la justice, on peut les laisser en liberté et il va commencer à se présenter au tribunal pour répondre à des actes. Mais je crois que c'est tout simplement intimider les autres journalistes qui sont encore en liberté de comprendre que la loi peut les rattraper d'une manière ou d'une autre qui a dénoncé les faits.
Odin Joseph Bogambo, vous êtes à Mbandaka. Quelle est l'actualité aujourd'hui dans cette ville?
L'actualité dans la province de l'Équateur, je me rends de nouveau dans la partie nord de la province, dans les territoires des Bosobo particulièrement, avec cette altercation entre deux communautés, donc la communauté Ngombe et la communauté Mono, altercation qui a conduit à la brûlure de plus de 40 maisons et de la communauté Ngombe. Le gouvernement provincial de l'Équateur a dépêché une mission conduite par les ministres provinciaux de l'Intérieur. La délégation a fait hier, je crois que d'ici à ce soir, elle pourra arriver à Bosobolo pour tenter de réconcilier les deux communautés. Et ça aussi, c'est le vœu de tous, et que les deux communautés doivent être réconciliées, parce que très souvent, les conflits entre les communautés et les communautés de l'Équateur finissent mal. On doit éviter, par exemple, de tomber dans les Malirika, les Vignelés, dans les sud du Bandé. Voilà l'actualité dans la province de l'Équateur.
Merci. Nous passons à notre premier thème de ce soir. Signature dimanche dernier à Addis Abeba, en Éthiopie, de l'accord cadre destiné à ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. 11 pays africains ont procédé à cette signature devant les facilitateurs des Nations Unies et de l'Union africaine. Les pays signataires de ces documents se sont engagés pour un retour de la paix dans l'est de la RDC et dans toute la région. Les grandes lignes de cet accord avec Mimi Ngumba Mulongo.
Concernant la République démocratique du Congo, elle prend l'engagement de continuer et d'approfondir la réforme du secteur des sécurités, mais aussi promouvoir les objectifs de la réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation pour ne citer que cela. Quant aux pays de la région, ils sont appelés à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins tout en respectant leur souveraineté. Ils se sont aussi engagés à ne pas tolérer ni fournir une assistance quelconque à des groupes armés. À l'endroit de la communauté internationale, il est prévu une revue stratégique de la mission de l'ONU, ce qui permettra de renforcer son appui au gouvernement pour faire face aux enjeux d'ordre sécuritaire. Il faut aussi souligner la nomination prochaine d'un envoyé spécial des Nations Unies devant soutenir les efforts de paix. Enfin, l'accord cadre prévoit un mécanisme de suivi avec notamment une évaluation synchronisée entre la RDC, les pays limitrophes, les partenaires régionaux et la communauté internationale. Depuis les sièges de l'Union africaine à Addis Abeba, Mimi Ngumba Mulongo, Radio Okapi.
Prenant la parole après la signature de cet accord, le secrétaire général des Nations Unies a rappelé l'engagement du gouvernement congolais à mener des réformes internes. Ban Ki-moon a également félicité tous les chefs d'État signataires de cet accord, suivant ce texte du discours de Ban Ki-moon.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage à mener certaines grandes réformes internes. Monsieur le Président Kabila, vous devrez jouer un rôle moteur que les réformes progressent résolument. L'ONU est prête à vous prêter son concours. Je me félicite également que les chefs d'État de la région de Grand Lac se soient engagés à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays voisins, à renforcer l'intégration économique régionale et à ne tolérer ni à aider ou soutenir d'aucune façon quelque groupe armé que ce soit.
Benoît Kamere, comment analysez-vous cet accord cadre qui consacre une approche globale allant du renforcement de la gouvernance interne à la RDC aux engagements pris par les États limitrophes, les pays limitrophes à la RDC, et de ne rien faire pour déstabiliser les Congos, l'objectif étant de ramener la paix au Congo et dans toute la région des Grands Lacs. Comment vous analysez cet accord?
C'est un accord, un de plus. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse que cet accord, je l'ai lu avec les signatures au lendemain même de la signature de cet accord à Addis Abeba, au site du gouverneur Julien Paluku Kahongya.
Du Nord Kivu ?
Absolument, il a un site et j'étais agréablement surpris de constater qu'un dirigeant de notre pays peut être aussi informé, que je salue au passage. Je l'ai lu.
Ils ne sont pas informés, les dirigeants de la RDC?
Beaucoup ne lisent pas, comme j'ai constaté qu'il avait tous les documents. Et notamment, je me dis que c'est un accord de plus. Parce que j'ai devant moi le pacte sur la sécurisation, la stabilité et le développement dans la région des Grands.
Signé en 2006.
Signé en 2006. C'est tous les signataires qui ont signé, sauf un seul, parce qu'à l'époque, le Soudan était le Soudan entier. Maintenant, c'est Salva Kiir qui signe au nom du Sud-Soudan à la place de El-Béchir, qui avait signé au nom du Soudan. Mm-hmm. C'est pratiquement les mêmes mots, les mêmes engagements qui reviennent, n'est-ce pas? Et c'est dire que on peut se...
C'est pourquoi là-dedans, il est dit « renouvelle ».
Voilà.
La RDC renouvelle.
Effectivement.
Les États signataires renouvellent.
Engagement renouvelé.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été... Les engagements ont déjà été pris.
Oui.
Malheureusement, depuis tout ce temps, les engagements n'ont jamais été respectés. C'est ça le drame de tout ce qui a été dit dans cet accord. Et même en ce qui concerne particulièrement la République démocratique du Congo, ça me paraît assez grave que ce soit la communauté internationale qui rappelle les devoirs de la République démocratique du Congo qui sont contenus dans notre constitution. On ne peut pas rappeler... Après tant d'années, en ce qui concerne le président Kabila, ça fait 12 ans qu'il est là, on ne peut pas lui rappeler à lui de respecter la constitution de notre pays. Par exemple,
rappeler à la RDC, mais aussi à tous les pays limitrophes de la RDC.
Justement, d'abord, la RDC. Il y a un chapitre spécialement réservé à la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Et puis, quand on rappelle à la sous-région, c'est y compris la République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo fait partie de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, et déjà dans le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs, depuis 2006, tout ça a été déjà fait. Qu'est-ce qui fait que
les dirigeants africains, les dirigeants congolais, les dirigeants de la sous-région ne respectent pas les engagements qu'ils signent. C'est un accord de plus, malheureusement.
Merci, Ambroise Mamba. Un accord qui consacre une approche globale. Et certains analystes disent que c'est même ça la force de cet accord. Alors qu'on sait que le pacte qui avait été signé en 2006 avait utilisé la même approche.
Bon, ici, je voulais d'abord commencer par déplorer le fait que Ban Ki-moon, pas plus bien qu'hier, sur les antennes de radio, de RFI plutôt, a déploré le fait que l'accord était déjà violé par certains pays voisins de la RDC. Il n'a pas cité les noms de ce pays, mais il a déploré le fait que c'est déjà violé. Donc, 4 jours après la signature de l'accord, les secrétaires généraux des Nations Unies déplorent la violation de cet accord. Voilà pourquoi Benoît Cambéré rappelle le pacte sur la sécurité, la stabilité qui a été signé autrefois, mais qui n'a pas été concrétisé aujourd'hui. Ça veut dire que quand on parle d'un engagement renouvelé pour la RDC, engagement renouvelé pour la région, ainsi de suite, on renouvelle des engagements qu'on a pris autrefois, mais qu'on n'a pas pu réaliser. Mais alors, c'est ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut encore avoir des inquiétudes par rapport à l'accord cadre qui a été signé dimanche, que les gens qui ont renouvelé les engagements risquent de ne pas le réaliser, comme ils l'ont fait avec le pacte sur la sécurité. Alors, pour analyser l'accord lui-même, je voudrais ici déplorer le fait qu'effectivement, pour l'engagement renouvelé du chef de l'État, parce qu'il a signé, donc la RDC, il a signé, il a renouvelé un engagement par rapport à la démocratie, à la tolérance politique, la réconciliation nationale, c'est des choses qu'il aurait dû faire depuis très longtemps. Et lorsqu'on les lui rappelle par ses pairs, ça fait honte quand même pour notre pays. Absolument. Qu'on puisse vous rappeler ce que vous aurez dû faire. Ça veut dire que vous devez donner à manger à vos enfants, mais c'est un voisin qui vient vous dire, donnez, vous avez oublié de donner à manger à vos enfants. Et ça fait honte quelque part. Mais j'estime tout simplement que peut-être c'est un accord international. Les Africains ou bien les chefs d'État africains ont compris, par exemple, que non, dans les conflits qui surgissent en RDC, il y a aussi ces côtés-là. Parce que le pays peut-être ne pas gérer de manière un peu orthodoxe. Il y a des réformes à faire au niveau économique, au niveau sécuritaire, ainsi de suite. Mais les réformes qui n'arrivent malheureusement toujours pas. Et voilà pourquoi on veut rappeler à la RDC, mais faites ce que vous devez faire. Pourvu que ces groupes armés, qui sont souvent soutenus par les pays voisins, ne puissent pas avoir, c'est pas moi, une raison de pouvoir se soulever pour qu'ils puissent bénéficier du soutien de vos pays voisins. Et c'est là que les chefs de l'État devaient travailler. Et le plus important pour moi dans cet accord, c'est le mécanisme national des suivis. Si, effectivement, on veut effectivement, cette fois-ci, être plus concret, au lieu de prendre des engagements, par la voie de la signature, par la voie de la parole seulement, mais qu'on puisse traduire cela en actes et qu'il y ait effectivement ce mécanisme national de suivi pour que ces réformes soient effectivement concrétisées à ces moments-là, réconciliation nationale. On verra ce qui sera fait, tolérance politique, on verra ce qui sera fait, consolidation de la démocratie, on verra également ce qui sera fait. Mais l'inquiétude par rapport à la région de Grand Lac, c'est cet aspect de l'intégration économique, par exemple. C'est vrai, l'accord porte le titre de l'accord sur la paix, la sécurité et la coopération, justement par rapport à l'intégration économique, il faudra qu'on puisse installer cette zone de libre-échange, effectivement, mais l'inquiétude c'est au niveau de l'importance qu'on veut donner à l'exploitation des ressources par rapport à cette intégration économique qu'on n'a pas pu expliciter pour qu'on sache effectivement ce qui va être fait.
Odan Joseph Bongambo, un autre engagement, c'est consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la RDC, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. On a l'impression que la RDC a beaucoup plus de devoirs que des droits dans cet accord cadre. Hein? Odan Bongambo, apparemment nous l'avons perdu. Benoît Cambéré, la RDC apparemment a beaucoup plus de devoirs dans cet accord que des droits.
Écoutez, c'est normal parce que c'est un accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo d'abord.
Et aussi dans la région.
Bien sûr dans la région. Et je l'ai dit tout à l'heure, Guy Matetsongo, que l'accord cadre est destiné à la République démocratique du Congo et à la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, dont fait partie la République démocratique du Congo. Ce qu'on demande particulièrement à la République démocratique du Congo est consigné, et ce qu'on demande à la République démocratique du Congo, sans la citer, comme d'ailleurs l'a évoqué sur votre micro, toujours le gouverneur Julien Paluku, qui lui a dit, sans, ce n'est pas écrit, que c'était adressé plutôt au Rwanda et au Burundi. Mais j'ajoute, moi, que c'est adressé non seulement au Rwanda,
et à l'Ouganda plutôt, mais s'est adressé également à la République démocratique du Congo, sans être cité. Et c'est un devoir pour tous les membres de faire en sorte que, par exemple, que les groupes armés ne déstabilisent pas les pays voisins. Quand on parle de groupes armés en ce qui concerne la République démocratique du Congo, on voit les groupes armés ougandais qui sont en République démocratique du Congo. On voit les groupes armés rwandais qui sont en République démocratique du Congo. On voit les groupes armés ougandais, plutôt burundais, qui sont en République démocratique du Congo. Alors que ailleurs, on ne cite pas. Mais c'est donc encore une fois...
Il y a des gens qui ne peuvent faire cet accord, le fait qu'on n'a pas cité nommément les pays qui agressent la RDC, alors que le travail qui a été fait par les experts est là, qui atteste qu'il y a des pays comme le Rwanda, comme l'Ouganda qui agressent la RDC. Mais pourquoi on ne l'a pas dit formellement dans cet accord?
Mais on ne l'a pas dit parce
avis.
Que je m'étonne quand on dit que nous avons une diplomatie forte, que nous avons une victoire, nous avons des victoires diplomatiques là où on n'en a pas. C'est dans des documents comme ça qu'on devait le voir. Rappelez-vous, Guy Maté, que ce document devait être signé il y a un mois. Il n'a pas été signé parce que certains pays qui ont des diplomates forts, n'est-ce pas, ont protesté contre certains termes. Et ces termes ont été élagués. Où sont nos diplomates à nous qui nous montrent, qui nous brandissent des victoires diplomatiques là où il n'y en a pas, pour faire triompher les thèses de la République démocratique du Congo? Je n'en vois pas. C'est ça le drame. Et quand les autres, eux, veulent faire entendre leur voix, on le voit. On les a pas cités. Tout le monde cite les experts des Nations Unies. Mais on ne voit pas un rapport de la République démocratique du Congo qui dit que tel fait a été élagué, a été évoqué plutôt. On a entendu, quand les experts ont dénoncé le Rwanda, c'est des officiels congolais dire qu'il faudrait que la République démocratique du Congo elle-même se fasse d'abord son idée sur ce qui a été dit. Et comment voulez-vous qu'on tienne compte de ça alors que nous-mêmes, on ne reconnaît pas ce que les experts ont allégué à titre d'exemple.
Merci. Odin Bogambo, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Alors, ceux qui soutiennent cet accord affirment que le fait qu'on ait responsabilisé 11 États et 4 organisations supranationales, les Nations Unies, l'Union africaine, la CIRGL et la SADC, et que cela rend efficace cet accord comparativement aux précédents qui étaient des simples accords bilatéraux.
Bon, je crois qu'il faut tout d'abord saluer le courage du gouvernement de la RDC, en ce sens que c'est quand même un pas déjà vers la paix, même si ce n'est pas encore suffisant. Mais moi, ce que j'ai un peu déploré dans cet accord, c'est que je n'ai pas vu l'engagement exprès des pays de la région, des pays signataires, à prendre des positions pour mettre fin à la guerre qui vit dans la partie de notre pays. L'engagement du Rwanda n'est pas profond, et l'engagement du Rwanda ne devait pas être le même comme l'engagement des autres pays qui n'ont pas de soutien affiché à la rébellion de l'Est de notre pays. Je crois que le Rwanda devrait, par exemple, commencer par être cité comme pays agresseur, l'Ouganda également. Ensuite, la communauté internationale devrait prendre des mesures particulières pour contraindre ces deux pays à ne plus continuer à soutenir la guerre à l'est de notre pays. Mais le gouvernement, ça déjà, ce n'est pas important. Malheureusement, la petite comptabilité nous parle déjà des 15 accords signés dans ce sens. Donc ça, c'est le 15e accord. Il y en avait un premier, un deuxième, aujourd'hui nous sommes au 15e accord. Je crois que c'est déjà beaucoup. Et que celui-ci puisse être les derniers. Ça, vraiment, c'est pas vrai. Donc, que les engagements pris par les uns et les autres soient respectés. Que le président Kagame comprenne que toute la communauté internationale a des yeux branchés sur lui et sait désormais que c'est lui qui soutient cette guerre. Et comme il s'est engagé, donc il a pris l'engagement devant le secrétaire général de l'ONU, qui le respecte, pour que nous puissions vivre en paix avec notre pays voisin.
Ambroise Mamba, vous l'avez dit, cet accord est déjà violé. Cela n'est-il pas lié au fait que les rapports des forces dans la région n'ont pas changé? Vous savez, en relation internationale, ce qui compte, c'est les rapports de force. Or, pour le moment, les rapports de force ne sont pas en faveur de la RDC. Et certains analystes disent qu'on peut signer autant d'accords, mais aussi longtemps que les rapports de force ne seront pas modifiés en faveur de la RDC, on n'aura pas la paix chez nous.
Justement, en relation internationale, on dit les rapports entre les nations sont soit belliqueux, soit pacifique. Mais quand ces rapports sont belliqueux, les nations les plus faibles s'inclinent devant les nations les plus puissantes. Ce qui veut dire tout simplement que dans la région, nous passons pour une nation faible, que quand on signe de tels accords, on n'a toujours pas la possibilité de gagner en pratique, en fait. Alors, lorsque vous...
Cela veut dire que cet accord devait être précédé par des efforts à faire à l'interne.
À l'interne, des efforts à faire à l'interne. C'est pourquoi je le rappelais ici. Lorsque on vous rappelle, c'est que vous auriez dû faire. Vous ne l'avez pas fait. En d'autres termes, on veut vous dire ceci. Écoutez, vous gérez mal, vous ne faites rien. Voilà pourquoi il y a des groupes armés. Je suivais hier sur BBC l'ancien premier ministre britannique, Tony Blair, qui a dit exactement ceci. Si des Congolais meurent comme des mouches sur le sol de leurs ancêtres, c'est pas leur propre faute. Il n'est pas parti par quatre chemins. C'est par leur propre faute.
Il veut dire
alors,
quoi par là?
Oui, leur propre faute. Alors, vous êtes irresponsable.
Il veut dire quoi par là?
Il veut dire, à mon avis, que vous êtes irresponsable et vous ne voulez pas prendre vos responsabilités.
Il dit que le pays est agressé par des puissances.
Justement, il s'agit de l'agression. Le terme agression est même sorti de la bouche du président de la République le 15 décembre 2012 devant le Congrès lorsqu'il a dit que le pays est agressé par le Rwanda. Mais le terme agression n'est pas dans l'accord cadre, malheureusement. Et c'est là qu'on veut savoir où est la victoire diplomatique que nous chante souvent la majorité présidentielle ou bien le pouvoir de Kinshasa. Où est la victoire diplomatique? Si les Rwandais, on peut seulement lui demander de s'interdire, de soutenir les groupes rebelles, les mouvements rebelles, ainsi de suite, alors que les Nations Unies elles-mêmes ont établi un rapport que les Rwandais étaient en train d'agresser la RDC, ce qui n'a pas été dit dans l'accord, c'est vraiment déplorable.
Merci. Benoît Kamere, comment pouvez-vous expliquer les affrontements en cours entre les deux ailes du M23 au Nord Kivu? Est-ce lié à la signature de cet accord ou l'explication est ailleurs?
Non, en fait, c'est lié à tout ce qui se passe dans la région. Certes, l'accord a repris, pour ne prendre que la partie qui est adressée au gouvernement, l'engagement renouvelé. C'est des griefs que le M23, au deuxième et troisième point, n'est-ce pas, pour parler de Kampala, avait reproché au gouvernement. En principe, il ne devait pas être lié à ça. C'est tout simplement un positionnement de leadership, les intérêts, c'est vrai, et tout ce qui va venir après. C'est ce qui fait que cela... Et les choses qui s'enlisent à Kampala font que il y a des impatients à gauche et à droite. Il y a des gens qui, semble-t-il, ont été soudoyés dans un camp ou dans l'autre. Et il y en a qui veulent montrer qu'ils sont un peu plus loyalistes et légalistes. Vous avez vu que, depuis un moment, on remonte en épingle le cas Bosco Ntaganda, qui a été recherché, qui est recherché encore, n'est-ce pas, par la CPI.
Et que faut-il, selon vous, pour mettre fin à ces affrontements? Parce que la première victime, c'est d'abord la population.
Effectivement, civile. Effectivement. J'en ai parlé avec beaucoup de gens que j'ai rencontrés. J'ai rencontré des opérateurs économiques, notamment l'honorable Mouindo Kassolé, un grand opérateur chamoki de Goma, à qui on dit qu'on a l'impression que Rutshuru n'intéresse plus personne. Le territoire de Rutshuru n'intéresse plus personne. On se cramponne à dire qu'on protège Goma. Et Goma est maintenant asphyxié parce que la production agricole qui devait venir du territoire de Rutshuru, qu'on a abandonné, curieusement, au M23, tant que les choses vont s'enliser, Rutshuru, apparemment, on peut dire que c'est la province du Nord Kivu, sans le territoire de Rutshuru, fonctionne comme si de rien n'était, comme si les populations de Rutshuru ne faisaient pas partie de la République démocratique du Congo, et c'est assez dommage.
Merci, Odan Bogambo. Il y a unanimité sur le fait que qu'une cohésion nationale est un des facteurs qui peuvent permettre à la RDC de faire face à la menace qui guette ces différents territoires. Cependant, les villes ne s'accordent pas par rapport à la démarche pour parvenir à cette cohésion nationale. Les uns estiment que cela passe par la tenue d'un dialogue national à l'étranger. Ça, c'est l'opposition qui soutient ce point de vue-là. Et tandis que les autres pensent que il faut plutôt des concertations politiques ici au Congo. Et ça, c'est la majorité présidentielle. Comment vous analysez déjà ces divergences de vues par rapport à cette approche-là?
Il ne faut pas confondre les termes. Les dialogues nationaux, les concertations, je crois, deux choses différentes. Parce que pour l'opposition, j'estime que l'opposition pense que quand on parle des dialogues nationaux, on veut aller reprendre le partage du pouvoir. Parce qu'il faut chercher également à trouver une compréhension unique de la question qu'elle veut poser. La majorité, les concertations, c'est-à-dire que les pays est aujourd'hui sous la menace. L'insécurité au général, il faut maintenant trouver des solutions durables. Il faut impliquer les efforts de tous les fils et de toutes les filles du pays. Il faut la majorité de l'opposition se mettre ensemble, trouver un schéma commun pour permettre de sortir de la... Parce que c'est ça la vision. Si on parle des dialogues nationaux, c'est vers cette lancée. Mais on n'y voit pas, comme estiment beaucoup d'opposants, pour le partage du pouvoir, pour commencer à évoquer des questions qui ont déjà été réglées par la Constitution. Par exemple, s'ils vont encore revenir sur les fameux de la légalité ou de la légitimité du pouvoir dans ces pays, parce que c'est ce que réclament les opposants. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens dans ces pays qui continuent à dire que les 2011 ont été émis d'irrégularités et il faut reprendre les choses à zéro. Donc on est plus là, le président Kabila a déjà fait plus d'une année, donc c'est son mandat, les pays menacés. On doit sincèrement dialoguer. Hein. Le dialogue, ça va permettre que l'on ne puisse plus avoir des gens comme de réseau Lumba dans ces pays opposants. Aujourd'hui, il s'est fait finalement arrêter. Donc il faut un dialogue pour permettre à tout le monde de contribuer, n'est-ce pas, à puissions maintenir la force de notre pays, que nous puissions garder, n'est-ce pas, toute l'étendue de notre pays telle qu'elle est à ce jour. Parce que vous êtes opposant, demain vous allez prendre le pouvoir. Mais s'il y a partition, si demain par exemple le Rwanda arrive à annexer deux, je donne un exemple, vous allez devenir opposant, vous allez gérer le Congo avec quelle dimension. Donc il faut d'abord aujourd'hui le défi de chercher la cohésion nationale,
merci,
faire en sorte que les pays ne puissent pas diviser, que nous puissions avoir notre Congo uni et fort, et là, on va continuer avec la course au pouvoir de façon républicaine et démocratique.
Merci, Ambroise Mamba. Il y a unanimité sur le fait qu'il faut cette cohésion nationale, mais les gens ne s'accordent pas sur la démarche à mener pour parvenir à cette cohésion nationale.
Bon, moi, je voudrais dire une chose. La cohésion nationale, on l'a recherchée à un moment où il y a eu vraiment une division, la controverse autour des élections. Mais lorsqu'on a besoin de la cohésion nationale, on ne va pas éviter d'affronter les problèmes. Il faut affronter les problèmes. Et voilà pourquoi moi je dis que, vous voyez, dans le pacte, il y a l'aspect réconciliation nationale. La réconciliation nationale, Joseph Kabila s'est engagé à nouveau pour la réconciliation nationale. Alors, moi je vais poser la question à la majorité, comment ils entendent le terme réconciliation nationale s'il n'y a pas à résoudre la question de la controverse liée aux élections. Et cette question, quand on va la résoudre, ça va apporter la réconciliation nationale et il y aura d'office la cohésion nationale pourvu qu'on puisse faire face à l'agression dont on est victime. Mais si on veut éviter le problème, on va peut-être le régler plus tard.
Bernard Améré, un mot par rapport à la cohésion nationale.
Ben justement, moi je ne suis pas tout à fait d'accord et avec mon confrère de Mbandaka, Joseph, n'est-ce
Odan
pas
Bongambo.
Odan Bongambo, et avec la mouvance présidentielle qui prête des intentions aux opposants. Moi, je n'ai pas entendu, j'ai suivi la conférence de presse de Vital Kamerhe, j'ai suivi l'opposition extra-parlementaire, j'ai suivi l'opposition parlementaire, personne ne parle de partage du pouvoir. Moi, je me demande pourquoi la mouvance et ceux qui pensent comme eux s'accrochent au partage du pouvoir, partage du pouvoir. Non, il y a des problèmes. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Quand on veut éviter de parler des problèmes, c'est tout ça qui arrive. Pourquoi on doit rappeler, et Ambroise l'a dit tout à l'heure, même l'extérieur nous rappelle que, attention, cohésion nationale, attention, démocratisation, personne n'est dupe. Il ne faut pas penser que... Moi, j'ai entendu des officiels dire que jamais ils n'allaient négocier avec le M23. Où on en est aujourd'hui?
Merci.
Ce n'est pas les intentions ou les lubies de certains qu'on fait passer pour des vérités.
Merci,
ce n'est
merci.
Pas vrai. On n'est pas là pour qu'on partage le pouvoir. Quand on discute, quand on crève l'abcès, ce n'est pas nécessairement pour partager le pouvoir.
Merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Démission hier au Vatican du pape Benoît XVI. C'est hier jeudi soir au Vatican que Benoît XVI a renoncé définitivement à ses charges pastorales. Une décision que le souverain pontife avait prise lui-même et annoncée il y a plus de deux semaines maintenant. L'Église catholique reste donc sans pape jusqu'à l'élection de son remplaçant. Alors, à quand l'élection des nouveaux papes? Comment se fera cette élection et surtout qui remplacera Benoît XVI? Tentative des réponses avec Donald Madimba.
Le successeur d'un pape est généralement désigné par une élection dénommée conclave, initiative qui doit être convoquée par le cardinal le plus âgé dans la période située entre 15 à 20 jours après la vacance du siège. Ce conclave rassemble 150 à 200 cardinaux venus du monde entier et c'est eux qui votent le pape aux 2/3 des voix. Une fois le nouveau souverain pontife ainsi désigné, une fumée blanche est créée dans la cheminée de la chapelle Sixtine où d'habitude se déroule l'élection du pape pour signaler cette information à l'extérieur. Mais par contre, à chaque fois que la majorité souhaitée n'est pas obtenue, c'est plutôt une fumée noire qui est créée pour informer ceux qui attendent dehors que le pape n'a toujours pas encore été trouvé. Notez cependant qu'en ce moment, une dizaine de noms circulent au sujet des papes potentiels et les plus cités sont l'Italien Angelo Scola, archevêque de Milan, 71 ans, le Canadien Marc Ouellet, 68 ans, président de la Congrégation des évêques, mais aussi Peter Turkson, 63 ans, Ghanéen et président du Conseil pontifical Justice et Paix, des spéculations qui influencent difficilement le vote final.
Odin Joseph Bogambo, je rappelle que vous êtes directeur des informations à la radio-télévision SARA, une chaîne privée qui émet depuis Mbandaka dans la province de l'Équateur. Le pape a démissionné officiellement pour des raisons liées à l'âge.
Mais non, le pape a démissionné, ça va déranger l'Église catholique, parce que j'ai essayé de parcourir le droit canonique de cette Église. Franchement, en plus de 700 ans déjà passés, qu'on n'a plus assisté à une démission d'un pape, les deux raisons que le pape a évoquées pour sa démission, pour justifier sa démission ou la renonciation à sa fonction papale, je crois que ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Hein, le pape devrait être sincère pour dire l'Église catholique, écoutez, j'ai eu à me retrouver à la tête d'un mandat qui a connu beaucoup de scandales, vous savez, avec tout ce que le pape a connu comme des problèmes, son majordome, donc l'intendant des Vaticans. Les documents secrets qu'il avait remis à ses journalistes britanniques qui a également créé des problèmes. Il y a eu beaucoup de scandales, franchement, pendant les pontificats de Benoît XVI, et je crois que c'est parmi des raisons. À prendre aussi le poids d'âge, il a pris la décision de démissionner. Une décision, certes, qui n'est pas saluée par l'Église catholique. Parce que si vous lisez les droits canoniques, franchement, ça va compliquer l'équation. La renonciation de son mandat, maintenant, il n'est plus pape, on l'appelle pape émérite, mais franchement, son nombre va continuer à planer autour des Vatican. Et moi, je me pose des questions. Est-ce qu'avec ce que le pape a dit qu'il va incontestablement se soumettre au prochain pape, est-ce que ça va être fait comme il a dit? Parce qu'on n'a jamais eu un pape en fonction et un autre pape qui soit vivant.
Amoise Mamba, je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Web, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'âge n'est qu'un prétexte? C'est même Odin qui vient de les relever, il dit que c'est un prétexte. Et il pense que les papes n'ont pas pu affronter certains scandales. Et c'est comme la pédophilie qui était entretenue par certains réseaux au sein de l'Église, les mariages des personnes de même sexe et les mariages des prêtres. On dit que c'est plutôt ces facteurs-là qui ont poussé les papes à partir et que l'âge, c'est simplement un prétexte.
Écoutez, Je suis d'accord avec ceux qui estiment que l'âge est un prétexte parce que je trouve que Benoît XVI n'a pas pu supporter les poids de l'opprobre sur lui. L'opprobre qui est sur l'Église catholique, une Église qui doit être sainte, mais avec des scandales tels que la pédophilie, des prêtres, des évêques, et il a géré, il a gardé les dossiers dans le noir, ainsi de suite. Mais finalement, il a trouvé qu'il y avait l'opprobre et le débat qu'il y a eu au sein de l'Église, par exemple, pour des réformes. Il a voulu donner tout simplement un signal fort pour dire à l'Église catholique aujourd'hui, nous devons réformer l'Église. S'il faut que des prêtres se marient aujourd'hui, il faut y aller. Donc il y a vraiment un débat au sein de l'Église catholique, des conservateurs et des réformistes, et là on va le savoir à la suite de l'élection des nouveaux papes. Alors, je voudrais dire ici que Jean-Paul II est mort pape. Le poids de l'âge ne l'a pas empêché, la mort l'a surpris, la pape, il est mort.
Donc, évidemment, ça dépend de la perception de chacun.
Justement, alors Jean-Paul II n'a pas su, et il a quand même réussi, peut-être il y avait aussi des dossiers, peut-être scandales à son époque, mais il a réussi à les gérer à son niveau. Mais Benoît XVI, parce qu'il voulait peut-être qu'il y ait des réformes, il a rencontré des oppositions au niveau de l'Église, il a dit « Niet, je vais lâcher prise ». Il a lâché prise, il dit « Je ne vais pas continuer comme ça, il faut qu'il y ait des réformes au sein de l'Église ». Et c'est là un signal fort qu'effectivement le prochain pape puisse réfléchir sur ce point-là, qu'on puisse réformer l'Église catholique.
Maintenant, comme je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. La raison évoquée par les papes n'est qu'un prétexte.
Je voudrais ajouter, je suis chrétien catholique engagé. Et c'est à ce titre que je voudrais répondre, n'est-ce pas? Prétexte, non. Moi, je suis plutôt fier. Ce n'est pas parce que Benoît XVI a plutôt mon prénom, n'est-ce pas? Non, c'est tout simplement un acte de courage. Et un acte non seulement de courage qui devrait faire réfléchir les gens. Quand vous n'êtes pas en mesure de prendre une charge, vous démissionnez et c'est tout à votre honneur. Et cela, je crois...
Vous pensez que tous ces scandales qui ont été relevés n'ont pas été pris en compte dans le processus de prise de décision du pape Benoît XVI?
Est-ce que ces scandales ont disparu? C'est-à-dire que celui qui va arriver devra les gérer. Mais quand tu te sens incapable de donner tout ce que tu devais donner, tu démissionnes.
Est-ce que ce n'est pas aussi pour lui une façon de dire « Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe actuellement au sein de l'Église catholique »
Ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi ça. Mais il faudrait avoir le courage. Combien, pour ne prendre que le cas de l'Afrique, mon continent, combien de chefs d'État se sont cramponnés au pouvoir quand ils sont incapables de résoudre un seul des problèmes de leur population? En principe, on devrait avoir le courage quand on est incapable. Vous restez à la tête d'un pays des décennies. Vous n'êtes plus capable de donner un seul iota des solutions aux problèmes de vos concitoyens. Laissez la place à ceux qui peuvent le faire. C'est le courage de Benoît XVI que moi, j'applaudis et j'encourage. Et je suis fier, comme chrétien catholique engagé, que l'exemple vienne de mon Église. Pourquoi des gens se cramponnent, s'accrochent au pouvoir, alors qu'ils sont incapables de ne rien faire, alors qu'ils ne sont pas d'accord avec un certain nombre de choses? C'est un exemple qui devait être suivi, surtout par nos chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir alors qu'ils sont incapables de résoudre le moindre problème de leur pays.
Merci. Odan Joseph Bogambo, peut-on espérer avoir un pape noir? Allô, Odan Joseph Bogambo. Apparemment, nous l'avons perdu. Ambroise Mamba, on peut espérer avoir un pape noir?
C'est difficile, mais pas impossible, hein? C'est difficile mais pas impossible parce que on a cité le papier qu'on vient de suivre tout à l'heure des Dona Madiba. Il a cité deux blancs, un noir seulement, mais il a dit que ce sont des spéculations qui n'ont pas d'influence par rapport au vote. Mais le plus important c'est qu'il y ait un pape qui gère l'Église catholique de manière la plus bonne pour tous les chrétiens catholiques.
Les débats actuellement c'est que c'est en Afrique, en Amérique latine où l'Église catholique semble être beaucoup plus active et que les papes doivent provenir soit de l'Afrique soit de l'Amérique latine. À votre avis?
Bon, moi je ne suis pas chrétien catholique comme Benoît, je suis chrétien d'une église de réveil et je ne peux souhaiter qu'il y ait un pape qui va accepter des réformes, que des prêtres puissent se marier s'il faut qu'on y arrive, parce que c'est ça le problème. S'il y a la pédophilie, c'est une des conséquences du fait que les prêtres ne peuvent pas se marier. Alors s'il y a un prêtre qui peut accepter ces réformes au niveau de l'église catholique, je pense que c'est le plus important pour moi.
Benoît Caméré, les papes doivent provenir de l'Afrique ou de l'Amérique?
Non, le pape vient de l'Église catholique. Que ce soit l'Afrique ou l'Amérique latine où l'Église catholique est vraiment vivante, c'est un bon pape qu'il faudrait. Et parmi les potentiels, tous les cardinaux sont des potentiels candidats, n'est-ce pas? Il y a des gens de valeur. Je voudrais ouvrir une parenthèse que je vais refermer. Parmi les cardinaux qui vont élire, nous sommes fiers, nous Congolais, d'avoir un Congolais, le cardinal Laurent Pasigna Mosengo, qui fait partie des gens qui vont élire. Et c'est une grande valeur de l'Église. Il est aussi papable comme tous les autres. Que ce soit un Noir, que ce soit un Africain ou quelqu'un de l'Amérique latine, c'est un bon pape qu'il nous faut. Et c'est tout à l'honneur de l'Église catholique.
Merci, c'est la fin de cette émission. Jean-Claude Nsala était à la technique, Alain Irung à la réalisation, sous la supervision de Pélé Kipela Mondo, devant ses micros, Guy Maté. Merci et on se retrouve la semaine prochaine.